Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Patrice, pour vous, le top ou le flop de la semaine, c'est quoi?
Alors, j'appelle ça les services. Quand on regarde à la loupe, j'ai fait exprès, la croissance française que vous avez saluée de sa performance remarquable, 0,2%. Eh bien, merci les services, parce qu'effectivement, quand on regarde dans le détail de la progression de la consommation et de l'investissement, c'était là les bonnes surprises, en fait, de ces 0,2%. Eh bien, on voit que la consommation dans les services, c'est-à-dire, en fait, les transports, le tourisme et l'investissement dans la nouvelle technologie et la communication, toutes ces variables-là progressent non pas de 0,2%, mais entre 1,5 et 2% sur le trimestre, ce qui est effectivement très très important. Parce que grâce à, je veux dire, alors il y a la mutation sectorielle ou structurelle de la consommation, donc ça c'est des événements importants, et puis il y a l'appétit effectivement envers les nouvelles technologies, en parallèle avec un peu d'achat de biens du côté des entreprises. Alors ça c'est plutôt positif, je dirais, sur une croissance potentielle. Ça peut être éventuellement négatif s'il y a de la résistance du côté des prix des services, puisque là il y a la demande est importante. Et ça pose aussi une question, parce que quand on compare ces chiffres-là, donc progression de l'ensemble des services 0,8 par rapport au 0,2, progression de l'industrie manufacturière, progression entre guillemets, moins 0,1. Où est la réindustrialisation de l'économie française? Ça marche pas, ça marche pas encore.
Non mais ça, personne n'y a jamais cru. Non, franchement, ça c'est un truc de 20h.
Alors c'est un petit peu gênant, parce que ça s'appelle France 2030, on parle de l'énergie nouvelle. Je suis un investisseur étranger, je regarde ce que l'on me propose comme opportunité.
François Chollet, le top ou le flop de la semaine?
Le top, c'était ce que j'ai dit initialement, la croissance américaine des profits, avec 3% qui était attendu par le consensus, ils ont fait 8%. Donc on est vraiment sur une dynamique encore et toujours d'une économie américaine très robuste. Une prime de valorisation, évidemment, les États-Unis sont chers, mais c'est mérité.
Il y a une prime de valorisation
historique, elle a toujours été entre l'Europe et les États-Unis, les multiples.
Mais elle est au plus haut là, ou pas forcément?
Pas forcément au plus haut, elle est significative par rapport à l'Europe, ça c'est certain, mais elle est méritée par la solidité de Mouton.
Eric Lewin.
Le flop, Stellantis, qui perd 20% sur la semaine avec des mauvais résultats. Mais ce qui est marrant dans l'histoire Stellantis, c'est que ça arrive, cette histoire de très mauvais premier trimestre, quelques jours après les 36,5 millions d'euros accordés à Carlos Tavares. Je vous rappelle que 70% des actionnaires ont voté pour, donc ça fait quand même un peu désordre, même si Stellantis reste une super boîte.
Elle a fait une progression spectaculaire.
D'accord, mais enfin, elle est quand même passée dans l'espace d'un mois et demi de 27 à 20 euros. Bien sûr qu'elle a fait
Elle vient de
13-14. Vous rappelez qu'on on devenait fou parce que l'action ne montait pas, mais ce qui est drôle, c'est que ça arrive quand même au très 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 mauvais moment, parce qu'avec tout ce qu'il y a eu autour de les patrons sont-ils trop payés, Carlos Tavares, c'est vrai que le pauvre, 15 jours après l'annonce...
Bah, le pauvre non, parce qu'il a pris son...
Ouais, il a pris 36,5 millions d'euros, vrai que quand on voit après l'action s'effondrer, bon, on peut se poser des questions, et vous savez que je ne suis pas du tout de gauche, donc je dis ça vraiment avec un petit sourire amusé.
Ah bon, vous n'êtes pas de gauche?
Non, toujours pas.
Top ou flop de la
Est-ce que la gauche existe encore, Marc? Ça, c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir.
Bah, on verra après les européennes. Top ou le flop cette semaine?
Allez, flop, natalité en Allemagne, où on a seulement 693 000 naissances. Donc c'est en baisse de plus de 6% par rapport à l'année dernière. C'est un plus bas depuis 2013. Donc il y a les naissances qui baissent, il y a aussi les mariages qui baissent, hein, où on est un plus bas historique sur les mariages.
Ça, c'est à cause des riches.
Les divorces.
Il tourne en Allemagne, il dit vous ne mariez pas, vous allez divorcer. Il a 8 divorces,
Depuis la création des données en 1950 sur les mariages en Allemagne.
Alors oui, alors j'ai été quand même étonné, c'est que le taux de fécondité, il n'est pas si bas que ça.
On est à
1,4.
En ligne avec l'Europe.
Bah oui, surtout, beaucoup plus haut que l'Italie, l'Espagne, le Portugal.
Mais bon...
On est quand même à 1,2.
On est quand même à 1,4.
Ouais, non, mais c'est étonnant parce que les pays qui étaient les pays traditionnellement en bas de tableau, c'est-à-dire le Japon et l'Allemagne, qui étaient à 1,4, où on pensait qu'un 1,4 c'était vraiment le plancher, bah là, ça a explosé. C'est-à-dire qu'il y a des pays surprenants, comme l'Italie et l'Espagne. Et puis, bon, on va pas en reparler, mais la Corée à 0,72. Enfin bon, c'est assez étonnant. Je suis paradoxalement assez surpris que leur taux de fécondité tiennent aussi bien, même s'il n'est pas aussi bon.
Après, il y a le problème du renouvellement de la population. Et exactement. Là, l'Allemagne est très, très en retard par rapport à ça. Et donc là, la structure, le vieillissement structurel de l'Allemagne reste...
Mais on n'a pas encore de diminution de la population en Allemagne.
Non, pas encore. Mais après, il faut regarder aussi immigration et au total. Donc,